Le journal Adia Chipoukou. À la une ce dimanche, grève dans les régies financières congolaises. Les agents de l'OFIDA, DGRAD et DGI durcissent le temps. Ils ne reprendront le travail que lorsque l'État et leurs employeurs auront répondu de façon définitive et durable à leurs revendications. Près de 15 000 Congolais réfugiés de l'Angola pourront bientôt bénéficier d'une aide urgente. La MONUC, les agences onusiennes et des ONG internationales ont mis en place samedi à Kananga des plans d'intervention pour ces expulsés sortis par les frontières de Chikapa et de Luisa. Les journalistes de la radio Liberté à Guadolite et à l'Équateur se disent victimes des menaces de la part des responsables de l'ANR et de la DGM. Les deux services auraient mal digéré l'information donnée par la radio Liberté sur l'arrestation d'un Ouest-Africain. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Grève dans les régies financières congolaises. Les agents de l'OFIDA, DGRAD et DGI durcissent le ton. Ils entendent cette fois mener le mouvement jusqu'à ce que l'État et l'employeur répondent de façon définitive et durable à leurs revendications. Ceci en dépit des rencontres tenues jusqu'ici pour trouver un compromis. Pas de paiement des arriérés de la plus-value ou de la prime du quatrième trimestre 2006. Pas de reprise de travail, affirme-t-il. On écoute à ce sujet Tati Ntsungani, président de la délégation syndicale nationale de l'OFIDA.
La reprise du travail ne peut se faire qu'à la seule condition du paiement de la totalité du bonus du quatrième trimestre 2006. Le comité de gestion a fait la proposition de payer le tiers du bonus, proposition que nous avons examinée ensemble, mais nous avons estimé, et en cela nous rejoignons la position de l'intersyndicale du Congo, que la proposition est insuffisante. Un tiers, c'est quand même rien, compte tenu de la durée qu'a prise la libération de cette quotité.
De l'autre côté, il y a des conséquences aux frontières, il y a beaucoup de camions qui sont bloqués. Vous tenez compte de ça?
Les pertes, ça concerne tout le monde. Mais nous ne pouvons pas non plus arrêter ce mouvement. Pour la simple et bonne raison que l'État fait la sourde oreille. Il ne veut pas aller dans le sens du règlement définitif de ce problème. L'État ne veut pas trouver des solutions durables. Le mouvement est général. Les pertes sont énormes. Il est temps qu'on puisse trouver des solutions. Lundi 16 juillet, nous allons poursuivre le mouvement parce que jusqu'à ce jour, aucune solution n'a été trouvée. Je vais parler d'une solution définitive, pas de solution palliative.
Tati Ntsungani, président de la délégation syndicale nationale de l'OFIDA, était avec Peleki Pelamondo. La MONUC Kananga, les agences du système des Nations Unies et des ONG internationales envisagent des actions immédiates en faveur de 15 000 Congolais expulsés de l'Angola, sortis par les frontières de Chikapa et de Luisa. Ces structures ont présenté samedi les étapes de leurs interventions à l'autorité provinciale. Il sera question de l'évaluation de l'impact de l'expulsion et de l'aide à apporter à ces sinistrés. Déjà, les participants à la rencontre se préparent pour cette assistance. Le point avec vous, André Kambala, de
C'est une assistance diversement composée. L'UNFPA dit à prêter de médicaments d'urgence et de médicaments pour femmes violées. L'OMS disponibilise deux kits de médicaments qui serviront 2000 personnes durant 3 mois. Caritas dispose de non-vivres. La FAO apporte son aide en intrants agricoles. Toute cette assistance arrivera à destination après l'évaluation de l'impact de la deuxième vague d'expulsion. L'information a été portée à l'assistance par Véronica Mboutia de la section humanitaire de la MONU Kananga. Elle a précisé que les localités visées sont celles de Nsumbula, Kamako et Kabungu dans le territoire de Chikapa et Lombondombi Mbangu dans le territoire de Luisa. Le gouverneur de province ad interim qui a salué l'initiative a informé l'assistance du nombre croissant des expulsés. Les statistiques de vendredi indiquent 15 000 personnes. Il a aussi présenté à l'assistance la demande des expulsés formulée à la délégation des ministres. Il s'agit de moyens de transport pour ramener dans leur province les Congolais expulsés qui désireraient aller chez eux. Une demande qui, selon l'autorité provinciale, peut trouver écho favorable au sein des agences du système des Nations Unies. Kananga, André Kambala, Radio Okapi.
Cap sur l'Ituri en province orientale, l'Institut national de la statistique, INS, vient de lancer officiellement le début des enquêtes sur l'analyse globale de la sécurité alimentaire et la vulnérabilité des populations pour l'année 2007. 16 enquêteurs ont été déployés déjà vendredi matin dans les 5 territoires du district de l'Ituri. Pendant un mois, ils vont effectuer des sondages auprès de 230 ménages dans 22 villages à travers le district. Aimé Mosengo, un des délégués de l'INS, en mission à Bounia, explique comment les enquêteurs vont se comporter sur le terrain.
S'ils arrivent dans un village, ils vont tirer échantillon de 10 mélanges par village. Bon, ils vont commencer d'abord à sélectionner l'autorité locale qui est le chef du village, y compris le leader du village, les sages du village. Après avoir administré les questionnaires communautaires, ils vont maintenant tirer l'échantillon de 10 ménages qui vont représenter le village. Maintenant, ils vont entrer dans les ménages pour procéder maintenant les questionnaires ménages. Bon, dans les questionnaires ménages, il y a des questions à poser, fermées et ouvertes. Par exemple, combien de repas vous mangez par jour? Est-ce que votre enfant étudie? Est-ce que de votre ménage jusqu'à la grande route, vous faisiez combien de kilomètres? Par exemple, combien de mètres? Combien d'heures? Est-ce qu'il y a un marché dans votre village? La production agricole, tout ça.
Des propos recueillis par Isaac Remoyope, notant que cette opération bénéficie également d'un appui du Programme alimentaire mondial, le PAM. La RDC, sixième pays de la région des Grands Lacs, a adhéré à la campagne régionale de lutte et prévention contre le VIH-Sida. Cette campagne cible les camionneurs, longs courriers et les professionnels de sexe de la région des Grands Lacs. Le projet est déjà opérationnel dans cinq autres pays de cette région, en l'occurrence la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et le Kenya. En RDC, le programme a démarré vendredi dernier au Sud Kivu. Plusieurs activités vont être réalisées à ce propos, comme nous le dit Mesdames Pinda, coordinateur provincial ad intérim du PNML, au micro de Michel Chirimwami.
Développer une stratégie de prévention du VIH-Sida tout en assurant les soins et les traitements pour les services du secteur du transport ainsi que pour les populations associées, j'en ai de le dire. Mais en même temps, nous devons proposer des services adaptés aux populations visées. Ces services, ce sont les services de CDV, le Conseil des pistage volontaire, l'implantation des centres conviviaux dans ces sites-là, la promotion et la distribution de préservatifs, les soins des infections opportunistes et des infections sexuellement transmissibles et le traitement par des antirétroviraux. Nous avons aussi la mobilisation communautaire, la sensibilisation, l'information, éducation et communication pour le changement de comportement. Nous avons la communication interpersonnelle sur base d'une thématique adaptée. Voilà essentiellement les activités qui sont retenues dans le cadre de ce projet, dans le cadre de cette initiative lancée par le pays de Grand Lac. Il a été retenu trois sites qui sont Kamagnola, Mulungui, Auvira et Baraka. Voilà les trois sites qui sont retenus par rapport aux facteurs qui ont été définis, facteurs de risque par rapport à la transmission et la propagation de la maladie.
Nous vous le disions en ouverture, les journalistes de la radio Liberté à Guadeloupe disent être victimes des menaces de la part des responsables de l'Agence nationale de renseignement ANER et de la Direction générale des migrations DGEM. Selon eux, les deux services de sécurité auraient mal digéré l'information donnée par Radio Liberté sur l'arrestation d'un Ouest-Africain. Récit des faits avec vous, Dominique Wolombi.
Selon les rédacteurs en chef de Radio Liberté, Rally Guadeloupe, trois membres de son équipe reçoivent des appels de menaces de l'ANER et de la DGEM. Guadeloupe depuis plus d'une semaine. Il s'agit du directeur du rallye, d'un journaliste et d'un stagiaire. Selon le rédacteur en chef Peter Biako, ces menaces portent sur un reportage diffusé le mois dernier au sujet de l'arrestation à la frontière de Moba Mbongo d'un Sierra Leonais pour trafic de mitraille. Celui-ci avait présenté plusieurs documents délivrés notamment par l'ANER et la DGM qui l'auraient autorisé à acheter des mitrailles. Les deux services n'auraient pas apprécié être cités dans cette affaire sur les ondes de Radio Liberté, affirme le rédacteur en chef de la radio à Guadeloupe.
La menace a commencé jeudi 28 juin dernier. Le responsable de l'ANER m'avait appelé au téléphone où lui, il ne voulait pas que les noms du service spécialisé puissent sortir dans l'information. La menace a continué. Il a mis à garde nous les journalistes, nous serons arrêtés.
Contacté, les responsables des deux services cités rejettent en bloc ces accusations. Félicien Sico, chef de poste de l'ANER Guadeloupe, reconnaît avoir invité dans son bureau le rédacteur en chef Peter Biako pour des éclaircissements sur l'information des saisies par la police des mitrailles. Mais selon M. Sico, l'ANER serait faussement cité dans ces dossiers. Cela n'a pas empêché Radio Liberté Guadeloupe de saisir les autorités locales et la représentation provinciale des journalistes à danger, GED. Aucune enquête n'est encore ouverte pour l'instant. Mbandaka, Dominique Wolombi Mungapange, Radio Okapi.
Province orientale de nouveau, les éléments de la police intégrée qui assure la surveillance à la frontière sont sommés de quitter Mbokolo, localité située à la frontière avec le Soudan, à plus de 380 km au nord-est de Bounia. Cette décision de l'inspecteur provincial de la police en province orientale fait suite à une demande de l'autorité du territoire de Harou, une demande pas du tout digérée par la commissaire de district de Litouri, mais ce matin déjà, des policiers ont commencé à se déplacer, Sadala Chabani.
Ils sont Au total, 19 éléments de la police intégrée qui quittent la localité de Ndokoro ce dimanche matin pour rejoindre Arou. Cette décision de l'inspecteur de la police de la province orientale a été prise le samedi soir à l'issue d'une réunion de sécurité présidée par le gouverneur Aouchai Yassenga en mission d'inspection dans cette localité. Selon le général David Massoudi Loutala, de la police en province orientale, sa décision donne suite à la requête de l'administration des territoires d'Arou qui veut garder dans son entité la police territoriale. Ces éléments de la police intégrée ont été déployés à Ngokolo il y a 8 mois sur réquisition du commissaire de district de l'Ituri. Petroni Vaweka continue à soutenir l'importance du rôle que joue cette police à la frontière poreuse avec le Soudan où se pratique la fraude avec plusieurs complicité. Elle estime que cette police, qui est très efficace, doit continuer à surveiller la frontière avec le Soudan. De Ndokoro, Sadara Chabani, Radio Okapi.
Toujours dans la même province, à Kisangani, la société civile place les députés provinciaux devant leurs responsabilités. Elle leur a remis samedi un cahier des charges dans lequel elle présente un certain nombre de desiderata, notamment la lutte contre la corruption et le tribalisme. Les détails sur ces demandes de la société civile de Kisangani avec vous, José Deschartes de Minga.
Six associations de la société civile ont remis ce samedi un cahier de charges aux députés provinciaux élus de la ville de Kisangani. Dans ces documents, la société civile recommande aux députés l'accomplissement des volontés de la base. Par exemple, la suppression de toutes les barrières sur les voies de dessertes agricoles, la lutte contre la corruption, le bannissement du tribalisme dans les recrutements et la nomination des agents et cadres de l'État, la réhabilitation des infrastructures publiques, ainsi que le bannissement des valeurs négatives telles que la projection des films pornographiques en public. Ces revendications de la société civile ont été présentées au public par l'abbé Mathieu Liboilé, aumônier catholique des jeunes et porte-parole de la plateforme. De leur côté, les députés provinciaux ont bien accueilli les revendications de la base. Le président de l'Assemblée provinciale, un des 7 élus de la ville de Kisangani, appelle la population à les accompagner dans l'accomplissement de leur mission. En effet, Léon Deon Bassango estime qu'il appartient au gouverneur de province d'assurer l'exécution des aspirations de la base. Kisangani, José Deschartes Menga, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, par contre, la société civile est encore en train de mettre sur pied un cadre de réflexion sur les problèmes sociaux de la province. Hier, la TEP, tribune d'expression populaire, a traité dans un débat du sujet l'eau denrée rare à Mbujimayi. Ont pris part au débat toutes les couches de la population et les représentants, excusez-moi, des organisations membres de la société civile du Kasaï oriental. Le point avec Chris Mukande.
Les participants à cette première séance sont partis du constat que la population de la ville de Mbujimayi n'a pas accès à l'eau potable. Conséquence, une recrudescence des maladies hydriques, des cas de mort, de viol, d'accidents de circulation et de disparitions ont souvent été enregistrés pendant que les femmes, jeunes filles et garçons montent et descendent les rues, bassins sur la tête et bidons à la main, à la recherche de cette denrée précieuse. La dynamique de la société civile estime que ce manque d'eau chronique est dû à une mauvaise foi et un manque de volonté politique des décideurs. De son côté, le directeur provincial de la Régie des Eaux explique que son entreprise n'essaie pas de desservir la population en eau potable, faute d'énergie électrique. À cette difficulté s'ajoute le fait que les installations de la Régie des Eaux Mbujimayi doivent fournir de l'eau à une population estimée aujourd'hui à 3 millions au lieu de 500 000 comme initialement prévu. Dans le but de trouver des solutions à cette question devenue chronique, la dynamique de la société civile envisage entreprendre un plaidoyer auprès du gouvernement pour que la Régie des Eaux ne dépende plus de l'AMIBA en matière d'énergie électrique. Mbujimayi, Chris Mukande, Radio Cap.
Vous écoutez Radio Okapi à Kindu sur 103 FM. Le voyage de cette ville jusqu'à Kinshasa par avion devient un casse-tête. Encombrement, arrangement frisant des combines et autres trafics d'influence sont observés à l'aéroport de Kindu. Surtout pendant les embarquements des vols CAA, la seule compagnie aérienne qui reste en opération sur cette ligne depuis plus d'un mois. Selon le responsable de la compagnie aérienne africaine CAA, qui confirme la pertinence du problème, c'est possible qu'un deuxième vol par semaine voit le jour d'ici là pour essayer de contourner cette difficulté. Voilà, nous passons à autre chose avant de boucler ce journal, la 6e édition du FESPAM. Les lampions se sont éteints hier soir à Brazzaville en présence du président Denis Sassou Nguesso. Plusieurs artistes, dont Hervé Ferregola de la République démocratique du Congo, ont encore électrisé des nombreux Brazzavillois venus assister à la fin du FESPAM au stade Félix Eboué. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres.